Voilà, c'était l'extrait de la chanson La vie en rose de Edith Piaf, mais interprétée par Zaz. Elle parle du sentiment de tomber amoureux, des petits rires, des maudits tout bas, le cœur qui bat plus fort. Qui a déjà ressenti ça? Qui n'a pas eu le courage de dire qu'elle a déjà ressenti ça? Tomber amoureuse, c'est un sentiment qui a fait écrire tellement de chansons, tellement de poèmes, tellement de livres, et qui a fait produire tellement de films. Si on prend l'exemple des films romantiques, la majorité d'entre eux parlent de la première rencontre et du sentiment qui ça a généré ensuite. Et souvent, ils parlent de ce premier sentiment comme le top du top d'une relation amoureuse. Le message véhiculé est presque « Fais une rencontre extraordinaire et tu trouveras l'amour pour la vie. » C'est comme s'il disait « Si tu rencontres vraiment la bonne personne d'une manière extraordinaire, alors là, il y aura le « Et ils vécurent heureux pour toujours. » Maintenant, il faut que je fasse une confession. J'aime bien les films romantiques. Désolé, j'ai perdu toute la crédibilité envers Samuel. Avec Larissa, on aime surtout les comédies romantiques, mais on prend le temps de bien choisir parce que c'est vrai qu'il y a des trucs pas du tout sains dans ces films-là, dans quelques-uns. Et on est très conscient, les films peuvent pas enseigner sur comment avoir une relation d'amour, de succès, ils peuvent pas. Je pense même pas que c'est l'intention du scénariste. Le scénariste pense plutôt comment je peux amuser le public avec une histoire d'une rencontre tout à fait hors du commun. Le problème vient quand quelqu'un prend ce que ces histoires explorent et qu'il croit que c'est une garantie d'une bonne relation à long terme. Si quelqu'un prend ce que les chansons, les livres et les films romantiques explorent, ce bouillonnement de sentiments comme une garantie d'une bonne relation à long terme, cette personne est très mal partie, alors. Si quelqu'un prend le sentiment de tomber amoureux comme la garantie d'une vie à deux, pleine d'amour et de tendresse et de complicité, il sera très vite déçu. Parce que tomber amoureux signifie absolument rien pour une relation à long terme. C'est même possible de ne pas tomber amoureux et avoir une vie à deux très positive et satisfaisante. Et pleine d'amour aussi. Tomber amoureux n'est pas nécessaire pour commencer une relation. Ce sentiment de fascination pour l'autre, du cœur qui bat plus vite, juste le fait de voir l'autre par exemple, il diminue au fil du temps avec tous les couples qui ont vécu une période comme ça. C'est un processus normal. Ce qui est vraiment important, c'est de décider, les deux, de cultiver un amour durable. Une décision qui va aussi nourrir les sentiments, parce qu'ils sont aussi importants, mais qui ne dépend pas exclusivement des sentiments. Le texte qui m'inspire le plus pour ce genre de relation n'est pas 1 Corinthiens 13, comme on l'entend souvent dans les mariages, c'est plutôt Philippiens 2. Et on va creuser un peu ce texte dans les deux premiers dimanches de cette série. Il dit comme ça, « Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Ce texte de la Bible n'est pas destiné au couple. Il est destiné à une communauté de chrétiens. Ce qui rend ce texte encore mieux pour cette série, parce que vous pouvez vous dire « Ah, je suis célibataire et je ne pense pas à me mettre en couple en ce moment », par exemple. De toute façon, cette série est aussi pour vous. Parce que les principes sur une relation saine, sur comment résoudre des conflits, sur comment décider quand il faut terminer une relation, sont valables aussi pour les amitiés, sont valables aussi pour les relations avec les membres de notre famille. Les principes sont valables tout partout. Le texte d'aujourd'hui a été écrit premièrement pour les amitiés entre frères et sœurs dans l'Église. C'était ça le public cible de ce texte. Du coup, même si on va appliquer principalement pour les couples pendant cette série, ils sont valables pour toutes les relations. Et vous allez tous pouvoir prendre quelque chose pour votre vie personnellement. Alors, le point de départ de ce texte pour une relation à longue durée de succès, c'est l'union avec Jésus. Pourquoi ? Parce que dans toutes les époques de l'histoire, et aujourd'hui aussi, ce qui prend naturellement la première place dans notre cœur, c'est ce que je veux, ma vie, mon confort, mes désirs. C'est ça qui vient en premier dans notre vie, tout naturellement. Il n'y a personne qui a besoin de nous enseigner ça. Et sans Jésus, la société encourage de mettre toujours ça en premier. C'est toujours nous en premier. Ce que je veux, moi. Et Paul, il veut dire, peut-être le fait de toujours mettre moi en avant nous empêche de vivre pleinement les relations. Alors, il se tourne d'abord pour la transformation que Jésus peut faire dans notre vie. Ça comme le principal. Et sa première question est, votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? C'est la première question qu'il pose. Parce que oui, il y aura des moments difficiles dans toutes les relations. On va se blesser, on va ne pas être d'accord, on va parfois se disputer. Mais il commence en demandant, est-ce que le fait d'être uni avec Jésus te donne du courage pour avancer malgré ces difficultés? La deuxième question est, son amour vous apporte-t-il du réconfort? Plusieurs fois lors d'une dispute, quand on fréquentait par exemple avec Clarissa, je pédalais en rentrant à la maison et je me disais, c'est pas juste tout ce qu'elle m'a dit, je suis pas d'accord, je suis très fâché avec cette situation, et je parlais ça à Dieu en pédalant jusqu'à arriver chez moi. Et je suis sûr qu'elle disait la même chose de son côté, c'est pas juste, je suis pas d'accord, je suis très fâché avec cette situation. Et la réponse serait, à ces deux questions serait oui, dans ces moments, plusieurs fois, le fait d'en parler avec Jésus, ça donne du courage pour persévérer. Et dans ces occasions, il y a l'amour de Dieu qui est présent, l'amour de Dieu qui a réconforté quand on était fâché, quand on était frustré l'un contre l'autre. La troisième question qu'il pose, c'est « Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit ?» Lors des disputes, l'union avec Jésus nous a donné du courage pour persévérer, et le Saint-Esprit a poussé à une action de réconciliation. Genre le Saint-Esprit qui nous pousse, en ce moment, t'as pas envie de parler avec elle, mais va quand même. Va lui dire ce que tu ressens, explique de nouveau comment tu vois la situation. Ou alors le Saint-Esprit apporte une conviction et il dit, tu as aussi eu tort, toi. C'est ton orgueil qui parle plus fort. Va demander pardon pour ton côté du problème. Le Saint-Esprit aussi pousse à ce genre d'action. Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Et la dernière question qu'il pose, c'est « Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ?» C'est la plus simple. Oui, bien sûr, j'ai de l'affection pour elle, sinon je ne me serais pas marié. Alors ce que Paul veut dire, bien, si tu as tout ça, c'est juste le début. Pour les jeunes du YEP, par exemple, qui vont chercher quelqu'un pour partager une vie ensemble, je dis de préférence commencer par ce critère-là. Les relations amoureuses, c'est déjà tellement compliqué. Si la personne ne se base pas sur l'amour de Jésus pour persévérer, d'où elle va prendre des forces dans des moments difficiles pour aller de l'avant? S'il n'y a déjà pas l'amour de Jésus qui peut réconforter, qui peut donner du courage, d'où elle va prendre les forces quand ça sera difficile. Et j'ai entendu un témoignage cette semaine ici à Orbe de quelqu'un engagé avec Jésus qui s'est marié et que seulement ensuite son mari s'est donné à Jésus. Dieu, il fait grâce, c'est vrai. Et je vais donner un autre témoignage sur ça. Mais c'est un risque très grand, je veux dire, c'est un risque très grand. Si vous faites ce choix de vous marier quelqu'un qui n'a pas ses convictions, soyez sûr que c'est Dieu qui vous appelle à un mariage où vous ne pouvez pas prier ensemble. C'est pas les principes de la Bible qui vont guider les décisions des deux, où les enfants vont entendre parler de Dieu d'un seul parent. Ça sera plus difficile, c'est possible. Mais c'est un choix que j'aurais pas fait pour moi-même, je dis aux jeunes. Mais c'est possible. Et il continue. Rendez donc ma joie parfaite, complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Attends, mais c'est pas possible de vivre ça. Vivre en accord avec le même amour et la même pensée. Ça me rappelle un film Disney qui a voulu casser... Oh, maintenant, c'est fini. Hein, avec moi. Ouais, Samuel. Ça me rappelle un film Disney qui a voulu casser un petit peu cette idée de rencontre parfaite. Peut-être que Disney a remarqué qu'ils avaient trop insisté sur cette idée de rencontrer le prince parfait dans le dessin animé précédent, qu'ils avaient besoin un peu plus de dose de réalité pour les enfants. C'est dans La Reine des Neiges. Désolé pour la référence très enfantine. On est dans une phase de la vie où si on va regarder un film, on regarde des choses d'enfant. On regarde pas trop de choses d'adulte. La Reine des Neiges. Il y a une fête dans le château et la princesse Anna rencontre ce fameux Hans dans la prochaine image. Et ils s'entendent super bien. Ils chantent une chanson dans laquelle ils disent « Comment c'est possible qu'un inconnu finisse toutes tes phrases ? On a les mêmes idées, on est synchronisés. Personne ne me ressemble autant, il n'y a qu'une explication, c'est l'amour. » Du coup, le jour même de leur rencontre, ils décident de se marier. Anna va toute joyeuse raconter ça à sa sœur qui est la reine, et sa sœur devient très fâchée. Comment tu peux être naïf au point de vouloir te marier avec quelqu'un que tu viens de rencontrer? Est-ce que c'est ce genre de synchronisation que le texte de Philippiens veut dire? De naturellement avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments, un plein accord tout à fait naturel? Ça semble très irréaliste et je pense que c'est pas ce que le texte veut dire. La suite du passage va le montrer, on va lire la semaine prochaine qu'il faut beaucoup d'efforts pour être d'accord. Il faut beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup d'efforts pour avoir la même manière de penser, pour tendre vers le même but. L'unique manière d'arriver à ça, c'est de prendre le temps de parler et de parler et de parler surtout. Et là, le sentiment de tomber amoureux, c'est un piège. Ça nous rend aveugles. L'autre personne est si merveilleuse que forcément, on se croit d'accord avec tout. Et même si ça peut sembler vrai, ça va pas durer. D'ailleurs, une amitié fusionnelle aussi n'est pas possible à longue durée. Si on arrête d'investir, ça refroidit l'amitié. On est en train de préparer un couple pour le mariage. Et le programme que l'Armée du Salut a choisi, nous encourage à utiliser, s'appelle Ensemble. Il a été élaboré par des chrétiens suisses. Et une grande partie du cours, c'est de proposer des sujets de discussion avec des questions et des exercices pour que le couple puisse juste parler entre eux. Et qu'ils puissent parler sur tout. Même les choses qu'ils n'ont pas pensées. Les finances. Ah, on s'aime, l'argent c'est un détail, non? Non. L'argent, c'est pas un détail. Le ménage, les personnalités, la famille d'origine, les enfants, la sexualité, les langages d'amour, les péchés qu'on a commis avant. C'est la seule manière de pouvoir avoir cette union de manière de penser et de tendre vers un même but. C'est de pouvoir se dire, écoute, pour moi, l'organisation de la maison devrait être comme ça. Mais pour lui, ça devrait être comme ça. Comment on peut arriver dans un consensus? Ou alors, dans sa famille d'origine, ils agissaient comme ça, et dans la mienne, comme ça. Comment est-ce qu'on va, nous, agir en tant que nouvelle famille? Notre nouvelle manière de faire sera comment? C'est absolument pas automatique. C'est pas comme on pensait Anna et Hans dans ce film. Si on s'aime, on sera d'accord en tout. Non. Et spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, ils ne restent pas ensemble à la fin. Ouf. C'est une relation qui devait terminer parce que ça allait trop dans la mauvaise direction. Dans le dernier dimanche de cette série, on aura Timothée Omar qui va parler sur une relation où il a décidé de terminer parce que ça n'allait plus. Ça n'allait plus et ils ont dû terminer. Donc la phrase « tendez au même but » est très importante. Parce que naturellement, il y aura des sujets dans lesquels on pense différent. Mais la décision pour trouver un accord et tendre vers le même but, c'est ce qui crée une unité de pensée, finalement. C'est le choix, la décision, l'effort qui produit l'unité de pensée. Pas juste les sentiments. Et cette décision, cet effort fortifie l'union et le couple pourra dire « Nous avons le même amour l'un pour l'autre. » Parce qu'on a travaillé ensemble pour arriver là. Mais comme dans tous les autres domaines de la vie, il y a notre péché qui freine cette unité. Dans les relations de couple, mais dans les amitiés aussi. Et dans les relations avec notre famille. Dans le couple, par exemple, il peut y avoir un des deux qui garde le silence. C'est la personne qui ne partage pas ce qu'elle ressent. Ce qu'elle pense, elle garde tout pour elle. Parfois, elle veut résoudre tout seule. Ou elle ne veut pas montrer de faiblesse. Je gère. Des fois, en fait, elle n'a même pas pris le temps de découvrir ce qu'elle ressent réellement. Un des livres disait comme ça, si un des deux a besoin de temps de silence, peut-être qu'il n'a même pas découvert ce qu'il pense, ce qu'il ressent, laisse-lui prendre le train l'image, hein, de prendre le train et d'aller se réfugier dans ses pensées, mais qu'ils reviennent après pour te dire, qu'ils prennent pas et puis juste résoudre tout seul. Mais ça freine l'union, ça freine cette unité d'amour et de pensée qu'on est appelé à avoir dans ce texte. C'est quelqu'un pour qui chaque fois qu'on lui demande, il va dire « ça va ». Mais ça se voit que ça va pas, en fait. Parfois, il y a un des deux qui est toujours sur la défensive. Si l'autre pense différent, c'est une menace. Il faut que je réagisse. Et alors, soit il attaque, « Ah, mais toi aussi, tu es toujours trop sensible à ça. Et toi, tu fais les mêmes erreurs. Et tu penses jamais à moi, tu penses qu'à toi. Tu penses trop à ce que les autres pensent de toi. » Il attaque. Soit il se défend. « Ah, mais j'ai été élevé comme ça, ça va pas changer. » Je suis pragmatique, donc on fait comme ça et on passe et tout. Ou je fais le badminton depuis 10 ans, je ne vais pas arrêter maintenant. Là aussi, ça bloque l'union. L'autre, normalement, va prendre, si quelqu'un réagit comme ça, l'autre, il va prendre un de ces deux chemins. Soit il se tait, soit il va se mettre sur le tatami pour accuser aussi ou se défendre. Et la prochaine fois qu'on devra aborder un sujet, ça sera très dur parce que ça va de nouveau repartir là-dessus. Du coup, à quoi ? Bon, essayer de communiquer. Moins d'union, moins du même amour, moins de la même pensée. Et bien sûr, les sentiments pour l'autre diminuent aussi, forcément. D'autres fois, c'est juste le stress, en fait. On a plein de choses dans la tête et on ne prend pas le temps de vraiment écouter ce que l'autre est en train de dire. Mercredi, on avait fini la répète avec Christian et Daniel. Puis j'avais déjà commencé à penser d'autres choses. Daniel me demande un truc, je réponds je ne sais plus quoi. Puis après, 2 jours plus tard, je dis « Mais qu'est-ce que j'ai répondu et qu'est-ce qu'il m'a demandé ?» en fait. Puis j'ai réécrit un message en fait. « Je suis désolé, je n'ai pas écouté. Qu'est-ce que tu as demandé ?» Et puis « Qu'est-ce que j'ai répondu ?» Du coup, on n'écoute pas vraiment l'autre quand on est dans ce mode-là, stress. On ne prend pas le temps de découvrir comment l'autre y pense, ni comment nous, on pense à propos de ça. Et on traite juste banalement ce qui a été dit. On écoute sans écouter. Si notre vie est souvent dans ce mode-là, des fois, c'est nécessaire de diminuer la quantité d'occupation, de tâches, de travail. Mais parfois, c'est pas nécessaire, c'est juste notre manière de gérer la préoccupation qui doit changer. Comment je gère les choses qui sont tout là-dedans? Comment je fais pour les mettre de côté pour pouvoir me concentrer sur la personne qui est en face de moi? Ce qui est important de se rappeler, c'est que chaque discussion, chaque petit truc de la vie où ça frotte, où on pense différent, c'est une opportunité pour grandir en unité, finalement. C'est une belle opportunité de grandir. C'est une opportunité pour nourrir l'amour. Chaque manière de penser différente est une opportunité pour grandir. C'est la prochaine image. Ça serait très dommage de rater ces occasions par notre silence ou par notre mode défense ou attaque ou juste parce que notre tête est ailleurs. Une profonde unité est le but de Dieu pour le mariage. Et si un des deux ne veut plus continuer à travailler ensemble, à se parler, à discuter pour approfondir la relation, pour tendre vers le même but, c'est très difficile de continuer. Si un des deux ne veut plus. C'est possible de continuer, mais la relation sera fade, sans joie, sans intimité. Et c'est le contraire de ce que Dieu souhaite pour un mariage. Il y a seulement la grâce de Dieu qui peut sauver dans une situation comme celle-là. Et j'ai déjà vu la grâce de Dieu transformer, même où il n'y avait plus de communication et plus d'espoir. Cette semaine, c'était l'anniversaire d'une amie du Brésil. Elle doit avoir un peu plus de 50 ans. Elle s'est convertie quand mes parents étaient officiers à Recife, au Brésil. Du coup, j'ai bien accompagné cette histoire. Elle servait dans des rituels spirites. Elle s'habillait en blanc. Elle dansait dans des... On appelle ça la macumba au Brésil. C'est des offrandes pour les esprits. Et puis finalement quelqu'un l'a invitée, elle est venue, elle a entendu la parole et elle a décidé de se donner à Jésus et elle a laissé tout se passer au culte de côté. Elle avait le désir de devenir membre soldat. Elle avait le désir de devenir membre soldat, mais absolument pas son mari qui buvait, qui montrait peu d'affection envers elle, qui avait même le mépris pour les choses de l'Église. Des fois, son mari l'interdisait d'aller à l'Église parce qu'il dit « Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? » Et il dit « Toi, tu restes à la maison. » Puis, des fois, elle n'est pas venue à cause de son opinion. Et elle a commencé à prier avec les autres de l'Église, avec les officiers, avec des amis dans les petits groupes. Puis elle a persévéré. L'union avec le Christ, c'est ce qui lui a donné du courage. Quand ça n'est vraiment pas mal, c'est le réconfort de son amour qui lui a donné la force pour persévérer. C'est la communion avec le Saint-Esprit qui lui a permis de tenir bon là. Elle a pu devenir soldat, son mari a permis, mais elle a déversé de l'affection et de la bonté envers lui malgré comment il l'a traité plusieurs fois. Surtout quand il buvait, jusqu'à ce que des années après, quelques années après, d'abord c'est ses enfants qui se sont aussi donnés à Jésus un par un, puis après quelques années, je ne pourrais pas dire combien de temps, lui, il se donne aussi à Jésus. Et ce point était vraiment bien gagné, parce qu'il s'est donné à Jésus, il a voulu être membre soldat, du coup, et arrêter complètement de boire. Il est devenu trésorier du poste parce qu'il avait des compétences financières. Ensuite, il est devenu premier sergent, qui est la personne responsable de l'église quand les officiers ne sont pas là, parce qu'il avait une maturité. Il est devenu quelqu'un avec une maturité spirituelle aussi assez grande. Ce point était gagné, très bien gagné, mais il y avait encore beaucoup d'autres choses à attendre vers le même but au niveau de la relation. Ça change pas tout. Puis, il y avait beaucoup de choses à encore en parler, à se dire. Je ne suis pas d'accord là-dessus ou dans cet autre point. La grâce de Dieu peut transformer là où il n'y a plus d'espoir. Elle peut le faire. Elle peut vraiment le faire. L'union avec Jésus peut donner du courage. Son amour peut réconforter. Le Saint-Esprit peut donner des stratégies claires pour mettre en action dans une situation aussi difficile que celle-là. C'est possible. Est-ce que juste tomber amoureux peut produire des changements de vie comme celui-là ? Qui a changé la vie d'une femme d'abord parce qu'elle a grandi dans la dépendance de Jésus dans cette situation difficile et qui ensuite a changé la vie de son mari. Je suis désolé Edith Piaf, mais non. Même si tes chansons sont bien construites et que tu as une voix de tonnerre, une relation amoureuse à longue exige beaucoup plus que juste ce qui était décrit dans cette première chanson qu'on a écoutée. Ça exige beaucoup plus d'efforts. Et peut-être si vous remarquez que vos erreurs ont contribué à ce que le mariage soit fade en ce moment, faites devant Dieu une liste de toutes vos propres erreurs. Tant celles récurrentes, tout le temps vous faites que votre conjoint dit à vous, tu fais tout le temps la même chose. Ou les erreurs spécifiques, ici et là, au fil des années. Et ensuite, allez demander pardon à votre conjoint, par votre côté du problème. Juste essayer de faire mieux ne guérit pas les blessures causées, ne restaure pas la communication. Ça guérit pas juste faire mieux. Mais demander pardon, oui, ça guérit. Demander pardon spécifiquement, là, ça guérit. C'est pas demander pardon, c'est pas pardonne-moi parce que des fois j'explose. Non. C'est dire pardonne-moi parce que hier à midi, j'ai dit ça à table et je pense que ça t'a blessé. Comment est-ce que tu t'es senti? Pardonne-moi parce que quand on a eu ce repas en famille, j'ai fait ça et je pense que ça t'a blessé. Qu'est-ce que tu voudrais dire par rapport à ça? Et ensuite, je peux dire pardon pour cela, spécifiquement. Ça guérit une relation. Et on va le faire tout le temps, chaque mois, chaque année, pour le reste de la vie à deux. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Jésus, merci pour ces conseils de ta parole, de tendre vers le même but, d'avoir le même amour, la même pensée qui n'est pas du tout de la fiction. Et qui n'est pas quelque chose de banal. Ce n'est pas simplement un sentiment fort. C'est des décisions qui demandent beaucoup de travail, d'efforts, qui coûtent quelque chose pour nous-mêmes. Et Seigneur, on a envie d'aller dans cette direction, dans les relations de couple ici, ce qui coûte en ligne aussi. Seigneur, dans les relations d'amitié, dans les relations dans la famille, on a tellement de choses à apprendre, Seigneur. Et on veut être aussi très disposé à demander pardon. Chaque fois qu'on va commettre des erreurs ou qu'on a commis des erreurs, pour créer l'unité, pour approfondir la relation, pour tendre vers cette unité de pensée et d'amour. Enseigne-nous pendant cette semaine. Aide-nous à voir des petites choses dans cette semaine où on peut grandir. Des opportunités que tu nous donnes pour grandir en communication et grandir en unité dans les relations qu'on a. Amen.